Bonjour, Geneviève Labrec.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale du regroupement pour la trisomie 21 et également maman d'un garçon de 10 ans qui, lui, est atteint. Est-ce qu'on dit atteint ou subi ou... En tout cas, on ne dit pas souffre.
Non.
Ça, je revendique le non-usage du souffre.
On travaille fort pour l'enlever.
Ouais.
Nous, on dit ayant la trisomie 21 parce que c'est une caractéristique parmi tant d'autres.
Parfait. Alors, c'est ce qu'on utilisera. Ce qui nous a motivés à essayer de comprendre si la perception de la trisomie 21 a changé dans le milieu médical depuis 35 ans, c'est un texte de Mylène Moisan dans Le Soleil où on parlait du, à l'époque, petit David qui aujourd'hui vit en appartement et est en couple, a un travail, et pourtant les médecins avaient dit à maman à l'époque, vous devriez le placer puis en faire un autre. Et on se demandait où en est le soutien médical aujourd'hui et disons, quel pas avons-nous fait depuis?
Un des plus grands pas qu'on a fait quand même au Québec, c'est que maintenant les jeunes vivent dans leur famille. Il y a 35 ans, on les plaçait souvent dans des institutions où ils étaient éduqués, en fait, par des religieuses, puis ils étaient tous éduqués de la même façon. Maintenant, ils restent dans leur famille la plupart du temps. Il arrive encore dans certaines familles qu'ils vont choisir soit de les mettre en adoption, ou, mais la plupart du temps, c'est en adoption. La différence beaucoup d'il y a 35 ans, c'est que maintenant, le système médical connaît un peu plus la trisomie 21, mais il reste encore beaucoup à faire côté sensibilisation. Les médecins voient plus la liste de toutes les problématiques que l'enfant peut avoir et moins le côté que c'est un enfant comme les autres, qui va marcher, que ça va être un peu plus lent, mais il va marcher, il va courir, il va parler.
Mais Geneviève, est-ce que le médecin va encore aujourd'hui s'ingérer en suggérant quelque chose du genre « vous voulez peut-être penser à le placer ou le mettre en adoption ou... »
Je vous dirais qu'ils vont souvent dans le cas par cas. Je ne peux pas répondre pour tous les médecins.
Bien sûr.
Mais au regroupement, on a souvent des familles qui arrivent, qui viennent d'avoir l'annonce du diagnostic et qu'il y a des médecins qui leur ont dit que ça allait être tellement noir, que l'enfant allait avoir tellement de difficultés, que ce n'était pas une bonne idée, par exemple, de poursuivre la grossesse. Mais en même temps, c'est du cas par cas. Chaque enfant est unique, même s'il y a une trisomie 21, là, ils ont chacun leur petite particularité. Ce qu'on voit dans les livres médicaux, on n'a jamais vu un enfant avec tout ce qui est décrit dans le livre, là.
Heureusement.
Oui. Souvent, ils vont avoir, c'est sûr, dans les statistiques, on dit un enfant sur deux va avoir des problèmes cardiaques, mais le problème cardiaque peut être minime ou il peut être très important. Ça dépend de l'enfant. Et souvent, on le sait assez tôt à la naissance.
Le pourcentage des couples qui survivent à la naissance d'un enfant trisomique? Est-ce qu'on a une idée?
Oui, en fait, il y avait un enseignant qui avait fait une recherche sur le sujet. Et c'est comme dans les couples, je vous dirais, typiques, qui n'ont pas d'enfants ayant des besoins particuliers, c'est un sur deux. Qui se séparent suite à la naissance d'un enfant.
Donc, en théorie, on pourrait, si on fait les coins ronds, dire que la naissance de l'enfant trisomique n'a rien à voir avec l'état du couple. C'est en faisant les coins ronds.
Des coins ronds,
ouais.
Oui. Mais en même temps, c'est sûr que c'est tout un choc pour un couple. C'est des gros questionnements. Déjà, d'avoir un enfant quand on est en couple, on va se questionner des fois sur des affaires aussi banales de est-ce qu'on va donner le lait pendant le repas ou après le repas ou des choses comme ça. Mais quand on a un enfant avec des besoins, dont la trisomie 21, ben, on a plus de valeur. On va chercher dans on a de bonnes discussions. Est-ce qu'on va chercher, par exemple, dans des ressources privées pour en donner beaucoup, beaucoup plus? Les familles ont à se questionner beaucoup.
Vous qui êtes maman et qui parlez avec d'autres parents, quelles seraient les choses importantes à savoir ou à travailler comme parent pour se rapprocher de son enfant le plus rapidement possible, pour le voir comme un petit paquet d'amour?
Je vous dirais qu'il faut, moi j'appelle ça les étapes d'adaptation. L'enfant qui vient d'arriver, qui a une trisomie 21, c'est pas ce qu'on avait souhaité ou ce qu'on avait désiré. Il faut faire un certain deuil de l'enfant parfait. Donc, il faut apprendre à s'adapter à la situation. Il faut apprendre à connaître notre enfant. Au regroupement, on offre des séances de massage poupon pour les familles pour apprendre à masser son bébé parce qu'il y a certains massages qu'on ne fait pas chez un enfant qui a une trisomie 21 et d'autres qui sont fortement suggérés, souvent à cause de certains problèmes de santé. Donc, juste de masser son enfant, on établit déjà un lien physique avec l'enfant et on finit par passer par-dessus la trisomie puis découvrir notre enfant. Par exemple, il y a des enfants qui n'aiment pas se faire masser sous les pieds, il y en a qui aiment en dessous. Donc, on apprend à découvrir des petites choses comme ça et le lien se fait tout naturellement par la suite.
Au niveau de la maternelle, au niveau oui. de l'école, bon, le vôtre est dans une école régulière. D'ailleurs, il y a sûrement un prénom.
Oui, il s'appelle Hubert.
Bon, Hubert.
Oui, Monsieur Hubert.
Ça faisait longtemps que... Mais ça, déjà, j'aime ça, Monsieur Hubert.
Oui.
Comment on aide le professeur en peut-être soulageant ses inquiétudes parce qu'il se dit, boy, j'ai déjà une classe pleine, peut-être, mm-hmm. puis celui-là va être un paquet de troubles.
En fait, nous, quand on a décidé, je dis nous parce que c'est un choix de famille, le père d'Hubert et moi, on a décidé de l'inclure à l'école régulière. Mm-hmm. Donc, ce qu'on a fait, on a écouté beaucoup d'autres parents qui nous conseillaient fortement de faire une espèce de petit CV de notre fils pour pas que l'enseignant voit sur sa feuille Hubert, trisomie 21. Donc, on a préparé un beau petit document avec des photos, ce qu'Hubert aime, ce qu'Hubert aime pas, ce qu'Hubert, par exemple, il adore le Canadien de Montréal. Donc, on l'a mis en photo.
Excellent, Hubert!
Oui! Ah, et Piqué Souban, c'est son joueur.
Ouais.
Donc, on a présenté, on a appelé ça le petit curriculum vitae de Hubert. Et quand l'enseignante, elle a vu et elle a lu, puis on a parlé aussi de ses défis, parce qu'effectivement, il y a des défis. Ça y arrive de temps en temps de prendre son temps, puis de regarder les belles filles passer au lieu de faire ses dessins.
Excellent, Hubert!
Oui, c'est un enfant comme les autres. Donc, l'enseignante, après, au cours de l'année, elle nous a dit, ça m'a tellement aidée, parce que là, je ne voyais pas juste la trisomie, je voyais le petit garçon qui s'en venait. Et dans les premières semaines, elle pouvait dire, « Hey, Hubert, as-tu vu ça? » En sachant qu'il aimait le hockey, elle avait préparé des activités en fonction de ça. Donc, elle avait appris à le connaître au-delà de la trisomie 21. Mm-hmm. Et on lui a donné aussi beaucoup d'informations sur la trisomie.
Le trisomique a moins de filtres, disons, certains.
Certains, oui.
Oui. Comment le moins de filtres se perçoit-il? Ou est-ce qu'il y a une différence entre, je ne sais pas moi, de 5 à 15 ans et de 35 à 45 ans?
Je vous dirais que quand on amène nos enfants à vivre les mêmes choses que les autres enfants, ils apprennent les comportements sociaux, les bons comportements sociaux. La façon dont ça se vit, c'est très différent d'un enfant à l'autre, je vous dirais d'une famille à l'autre. Mm-hmm. Par exemple, je vais prendre mon exemple très personnel. Moi, je ne voulais pas que mon fils fasse des câlins et embrasse tout le monde. Okay. Parce que pour moi, je trouvais que, c'était pas super hygiénique. Donc, quand il était fragile au niveau de la santé, il attrapait tout. C'était pas la meilleure façon. Donc, on lui a montré que ce comportement-là, on fait pas ça. Parce que de toute façon, dans la rue, on fait pas des câlins à n'importe qui. Donc, nous, on dit les câlins, c'est à la famille ou aux gens que tu aimes beaucoup. Ce qui est des filtres, c'est un peu difficile des fois. Quand il aime pas quelque chose, il est assez franc et direct, il le dit. Puis on travaille fortement à essayer de lui expliquer qu'il y a des choses qui ne se disent pas et il y a des choses qui se disent. Alors, c'est de l'éducation, comme avec mes deux autres enfants.
Et les méthodes sont les mêmes ou...
Dans mon cas, oui. Okay. Parce que moi, j'ai décidé que j'élevais mes trois enfants de la même façon. Par contre, je vais adapter mes façons avec mon fils.
Mais c'est ce que je voulais dire, là, dans le sens, est-ce qu'on travaille, même si c'est la même méthode, les mêmes valeurs, est-ce qu'on travaille peut-être différemment pour être certain que le message passe?
Oui, il y a des messages des fois que ça passe pas du tout avec moi, mais que ça va passer très bien avec son grand-père. Donc, il y a des moments qu'on a à s'adapter. Mais je vous dirais que c'est comme un autre enfant. Il faut répéter.
Ouais. Je reviens au personnel médical.
Oui.
Est-ce que, bon, une fois le diagnostic tombé, est-ce qu'on sait comment référer les nouveaux parents? Est-ce qu'on les laisse un peu dans le vide ou on peut au moins rassurer en leur donnant peut-être justement des noms d'organismes, mm-hmm. des numéros de téléphone?
Ça dépend des hôpitaux, ça dépend du personnel en place. Et je vous dirais, il y a tellement de facteurs dans le système médical. Quand l'infirmière est rendue à son deuxième chiffre dans la journée, mm-hmm. c'est sûr qu'elle est plus fatiguée. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais en règle générale, dans les grands centres hospitaliers, Sainte-Justine, l'hôpital pour enfants... Nous, on envoie plus de 200 trousses nouveaux parents à tous les centres hospitaliers de la région de Montréal en espérant que les travailleurs sociaux les transmettent aux familles. Comme ça, ils ont déjà de l'information, ils savent qu'on existe. Est-ce que c'est remis tout le temps? Je ne peux pas dire oui. Il y a toujours des gens qui vont être en deux craques de chaise.
Ouais.
Est-ce qu'ils vont les référer aux bons endroits? Certains membres du système hospitalier ne connaissent même pas les ressources en dehors de l'hôpital, donc... de leur dire d'appeler au CLSC pour qu'ils aient accès aux services de première, deuxième, troisième ligne, c'est
Mais
plus difficile.
Comment ça peut s'expliquer, ça, étant donné que Je pense que c'est par l'amyosynthèse qu'on peut détecter justement si l'enfant pourrait être atteint de trisomie 21. Et donc, on a même quelques mois pour se préparer à préparer le parent, préparer le bénéficiaire. Comment se fait-il que le personnel médical ne sache pas ce qui se passe à l'extérieur des murs? Je comprends pas.
Oh, je vous dirais la même chose, moi non plus. Il y a des fois que je comprends
pas. On
s'entend. Et ce que je trouve difficile, surtout, c'est que quand ils annoncent, par exemple, en cours de grossesse, à 15 ou 20 semaines de grossesse, qu'ils annoncent à une femme, souvent elle est seule, des fois accompagnée de son mari, qu'elle a un enfant qui a une trisomie 21, il n'y a aucun soutien psychologique qui est apporté à cette femme-là, sauf si elle en fait le besoin. Des fois, après 2-3 fois, ils vont l'offrir. Ça, je trouve ça difficile, parce que ça reste un choc très difficile à prendre, avec en cours de grossesse, souvent à 20 semaines, on a senti le bébé bouger. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et par la suite, ils leur font faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests pour vérifier tout ça. Et quand la famille réussit à nous appeler ou ils décident d'appeler au CLSC, le CLSC n'offre aucun service tant que l'enfant n'est pas né.
Ah oui. Mais à quoi ça sert de le savoir d'avance? Si on n'est pas capable de profiter de cette période-là, souvent, on aime connaître le sexe pour savoir quoi magasiner. Enfin.
Mais il y a certaines familles que j'ai rencontrées qui l'ont su en cours de grossesse puis qui ça leur a aidé à se préparer.
Mais je comprends.
Ils ont fait des recherches, ils s'étaient informés. Et quand le bébé est arrivé, ils étaient prêts à l'accueillir. Mais
le choc est passé.
Le choc est passé. Mais il y en a quand même un tout petit peu parce que c'est pas. On peut pas. On s'imagine toujours. On va avoir un enfant, mais il y a toujours des surprises. Hein? La couleur des yeux, on ne sait pas s'il y a beaucoup de cheveux ou pas.
Ouais.
Donc, il y a toujours une petite surprise, il y a toujours une adaptation à faire. Mais c'est vrai que le système médical a beaucoup de travail encore à faire. Et je vous dirais que nous, en tant qu'organisme, on travaille fort dans cette optique-là. Comme en mois de mars, on va rencontrer les étudiants en médecine ici à l'Université de Montréal dans leur cours d'éthique médicale pour parler de l'annonce du diagnostic. Tous les futurs étudiants, bien les étudiants, en fait, les futurs médecins, vont au moins entendre des témoignages de 3 parents puis d'expliquer comment ça a été fait, des choses à améliorer.
10 secondes, Maman Labrecque, pour me dire qu'est-ce qui est touchant chez Hubert?
Oh mon Dieu! Je vous dirais qu'Hubert,
une chose!
Oh, il m'épate à tous les jours. Il dépasse mes attentes. Quand il est né puis qu'on m'a annoncé la trisomie 21, moi, je voyais toutes les choses qu'il ne pouvait pas faire, puis maintenant, je vois au contraire toutes les choses qu'il va pouvoir faire.
Geneviève Labrecque est directrice générale du regroupement pour la trisomie 21. Si vous en voulez davantage, elle sera assez bon pour la santé lundi avec Marianne. On revient après la pause.